signé avec l'Égypte, je porte notamment à Camp David, bien sûr, qui ont été maintenus jusqu'à présent. Quand Morsi est arrivé au pouvoir, et même avant même qu'il soit élu président, les frères musulmans ont précisé qu'ils ne toucheraient pas, qu'ils ne remettraient pas en cause les accords avec l'État d'Israël. Et il faut préciser qu'à l'époque de Moubarak, le gaz égyptien, puisque l'Égypte produit du gaz, est vendu à Israël à 3 dollars le baril, alors que sur le cours international, il est à 10. Donc ça en dit long quand même sur la nature réelle des relations entre le régime égyptien et l'État d'Israël. Voilà. Ça vous suffit comme question ? Vous voulez d'autres précisions ?
Mais je crois qu'il y a, quelques mois, il y a eu l'attaque à la frontière d'Israël et de l'Égypte.
Tout à fait.
De groupes islamistes, je crois.
Oui, alors, ce que ça signifie ? Depuis mars 2011, en fait, on a une forte agitation sur tout le Sinaï. À la fois une agitation des habitants du Sinaï, des tribus, qui ont décrété que cette fois elles allaient prendre le contrôle de leur territoire et qu'elles en avaient marre des spéculateurs qui venaient notamment de la capitale pour acheter leurs terres et qui les mettaient sur la paille et au chômage. Et puis on a vu s'installer des groupes d'un coup prétendument islamistes, évidemment avec l'étiquette qui fait peur, et qui souvent étaient issus de ceux qu'on avait libérés des prisons, puisque parmi, en dehors des délinquants qu'on a libérés des prisons, on a libéré les membres des groupes islamistes armés, Gamia Islamia, et notamment l'assassin de Sadat, qui a paradé en pleine place Tahrir. Alors si ça n'a pas du sens pour quelqu'un qui pratique le monde arabe, ça devient une fable, parce que c'est hallucinant. On se demande pourquoi, d'un coup, des criminels sont libérés. Et je pense qu'ils sont libérés de même façon que les droits communs qu'on a libérés, pour être instrumentalisés à un moment donné, au moment où on en a besoin. Et là, ce qui me fait dire ça, c'est que je tire mon expérience de ce que j'ai constaté en Algérie, quand le régime militaire algérien, et notamment ce qui tient le pays, le DRS, a voulu instrumentaliser des groupes islamistes armés, il l'a fait, il les a infiltrés, il a éliminé les cadres et il les a manipulés et fait commettre les pires des exactions, y compris l'assassinat des moines de Tibérine. Donc je pense que toute l'agitation qu'on a dans le Sinaï et qui existe depuis mars 2011, les groupes ont commencé, il y a eu à peu près une douzaine d'attentats, j'en avais parlé, contre le gazoduc, c'est destiné effectivement à sécuriser finalement la frontière d'Israël, puisque maintenant c'est l'armée égyptienne qui se déploie sur la frontière, tout simplement. Avec pour objectif, je pense, de mettre en place une zone tampon qui est censée exister, mais de militariser les forces de l'ONU qui sont sur la zone tampon. Elles y sont, les forces de l'ONU, mais désarmées. D'autres réactions, même des réactions sur le propos.
Et la situation actuelle dans les pays comme le Maroc, vous en pouvez peut-être un petit peu moins parler.
Oui, alors ce qu'on a au Maroc d'une façon récurrente. C'est de la contestation sociale, et notamment comme en Tunisie, en Algérie, les comités de jeunes chômeurs qui se mettent en place, de jeunes chômeurs diplômés. Il y en a des milliers, ils essayent de s'organiser, mais comme en Algérie, dès qu'ils manifestent, ils sont fortement réprimés. En Algérie, par exemple, il y a eu des grandes manifestations arabes d'ailleurs, de comités de jeunes chômeurs déprimés, mais les leaders ont été jetés en prison, tout simplement. Et ça, c'est, ça se fait. L'Algérie, c'est quand même la proximité avec la France. C'est des infos très qui concernent énormément de personnes ici, pas seulement les immigrés algériens ou ceux qui ont une attache avec l'Algérie. Ça nous concerne directement aussi en tant que Français. On n'a pas du tout d'infos là-dessus. L'info, il faut aller chercher, il faut aller la chercher sur les réseaux sociaux, en fait. Il y a une répression. De tout ce qui concerne la contestation sociale qui se met en place. En Égypte, on a par exemple actuellement ce qui s'est développé, c'est une suite de l'expérience égyptienne, c'est que plutôt que de manifester, les mouvements de contestation, et notamment un mouvement qui se veut très, comment dire, très fédérateur, Tamarot, qui veut dire rébellion, c'est rebelle, est en train de réunir des millions de signatures, ils en sont à plus de 6 millions, pour demander un référendum sur des élections présidentielles. Alors théoriquement, la loi constitutionnelle leur permettrait d'obtenir un référendum. Mais comme on sait qu'en Égypte, comme dans d'autres pays qui ont ce même type de régime, les lois ne s'appliquent pas du tout. L'Algérie a la meilleure constitution du monde. Et pourtant, dans les textes. Et pourtant, elle ne s'applique pas du tout. Il faut lire les textes de loi, on a une super démocratie. Donc, il y a dans tous ces pays-là une vraie contestation sociale. En Algérie, la contestation, elle est là depuis à peu près 2008. Où il y a régulièrement des mouvements, que ce soit des mouvements corporels, des mouvements des travailleurs, des grèves, mais que le problème, pour prendre l'exemple de l'Algérie, c'est comme il y a eu une répression et un nettoyage pendant 10 ans, une vraie épuration politique de cadres, aussi bien d'islamistes que de laïcs, ou que de progressistes. La répression a touché tout le monde, notamment, je pense à la question des disparitions forcées, il y en a eu à peu près 30 à 40 000, on a perdu ce lien entre la question sociale, c'est-à-dire, et le politique. Il y a un vide là, et il y a d'autant plus un vide que ceux qui étaient peut-être à même naturellement de devenir une élite dans un processus normal d'accès au pouvoir sont partis à l'étranger. Il y a 1 million d'exilés en Algérie, 1,5 million d'exilés qui sont partis durant ces 10 ans. Qui sont des universitaires, des cadres, etc. C'est-à-dire que maintenant, en Algérie, on a une minorité qui détient le monopole de la violence légitime et une armée entre ses mains et les forces répressives. Et de l'autre côté, on a un peuple qui est livré à lui-même, dont on essaye de corrompre une partie en distribuant l'accès au crédit, etc., etc. Donc la grosse difficulté, elle est là. C'est pour ça que j'étais inquiète pour l'Égypte, parce que connaissant cette expérience de l'Algérie, je crains qu'en Égypte, on ait cette tentation, mais sur un plus long terme, de pas le faire brutalement, parce que ça se verrait trop. L'Algérie est passée par là. Effectivement, de nettoyer. Donc soit nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit faire disparaître, soit corrompre. Donc on neutralise, ce qui permet effectivement à la question sociale d'avoir l'accès directement aux politiques et donc au changement, de construire la révolution, en fait. Alors, en Tunisie, il se trouve que j'étais en Tunisie au mois de novembre. En Tunisie, donc, on a à peu près, en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte. On a Ben Ali qui a été jeté, un système, donc les anciens du parti du RCD de Ben Ali, qui sont restés quasiment en place, toute l'administration tunisienne n'a pas bougé. On a effectivement quelque chose d'intéressant en Tunisie, c'est que l'opposition, avant même la destitution de Ben Ali, avait eu cette réflexion de dire « on va essayer de se réunir, de faire une plateforme commune pour le moment venu, arriver à une vraie transition démocratique ». Alors ça s'est fait en 2005, toute l'opposition tunisienne est venue à Aix-en-Provence, y compris les frères musulmans. Ils ont été intégrés parce que l'idée, Marzouki me l'a expliqué très bien, le président Marzouki, que je connais personnellement, puisque c'était un militant des droits de l'homme, me l'a expliqué très bien. L'idée était d'intégrer tout ce qui existait comme opposition en Tunisie dans un processus démocratique. Je pense que c'est une bonne façon de faire, de façon à ce que les islamistes aussi fassent l'apprentissage de la démocratie et des règles démocratiques. Et donc, cette idée, ils se sont réunis à Aix-en-Provence, inspirés par la plateforme de Rome des Algériens, qui n'a pas pu être appliquée, puisque cette plateforme qui avait été faite à la suite de la réunion de Sant'Egidio en 95 de toute l'opposition algérienne avait été rejetée complètement par ceux qui tiennent l'Algérie. Et donc, inspirés par cette démarche algérienne, les Tunisiens donc, ont fait cette expérience de se réunir. Et quand ils ont pu destituer Ben Ali, ils se sont réunis, tous étaient présents, donc ceux qui étaient présents à Aix-en-Provence se sont rencontrés et pour appliquer cette plateforme destinée à mettre en place un vrai processus de transition démocratique en Tunisie. Sauf que ceux qui ont signé cette plateforme, une partie de partis progressistes, notamment les communistes, ont refusé de participer. Et donc la Tunisie a actuellement un double problème. C'est qu'à la fois, elle a une opposition très à droite, les caciques, hein, qui sont toujours là et qui essayent effectivement de torpiller tout processus démocratique, puisque qui dit processus démocratique dit à moyen terme qu'on va leur demander des comptes, tout simplement, hein, justice. Et puis, de l'autre côté, effectivement, des partis comme celui de Hamam Amami, hein, qui sont là à contester effectivement le conseil de transition. Donc, c'est vrai que Marzouki et ceux qui ont essayé de mettre en place un processus démocratique sont pris en tenaille dans une situation économique exsangue aussi. Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes en Tunisie. Or, on sait pertinemment que ce qu'il y avait provoquer la première étincelle, et étincelle concrète, hein, du pauvre, comment est-ce qu'il s'appelle, Mohamed Bouazizi, c'est qu'effectivement, c'est ce chômage récurrent qui touche non seulement une majorité des jeunes, mais surtout les jeunes diplômés, quoi, qui n'ont aucun avenir. Et ça, c'est terrible. Donc on a une contestation, on a encore ces comités de jeunes diplômés qui se constituent, on a parallèlement à ça des mouvements de jeunes comme Taharak qui essayent d'organiser la société différemment. Donc actuellement ils passent d'un temps de réflexion sur des modes d'action à avoir à des expériences qu'ils vont commencer. Donc la Tunisie, c'est évidemment intéressant pour ça, mais en même temps on a effectivement des entre guillemets des garde-fous qui veillent à préserver les intérêts des multinationales avec le projet de l'exploitation du gaz de schiste. Et là, on a une grosse malédiction qui leur tombe dessus aux Tunisiens. En Tunisie. Ouais. Ça, c'est terrible. Oui.
Justement, dans beaucoup de réflexions par rapport à l'avenir de toute la région, on dit toujours, la jeunesse n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce qu'il y a un projet sociétal dans le coin progressiste ou est-ce que tout le monde attend que ça tombe
du ciel? Le jeune mouvement dont je parle, à Taharak en Tunisie, donc auquel j'ai assisté aux premières réunions, donc aux premières d'AG, et à leur façon de fonctionner, c'est un mouvement horizontaliste. C'est intéressant. Ça veut dire que leur cible, c'est pas d'être élu, c'est pas le pouvoir, c'est de travailler au sein de la société. Donc là, ils sont dans des phases de réflexion et notamment de développement d'actions qui vont toucher les jeunes là où ils vivent. Ça, c'est des expériences qui prennent du temps. Mais je suis convaincue qu'à terme, effectivement, non seulement ils sont en train de semer une idée, c'est que la société, une idée fondamentale, peut s'organiser en dehors d'un État, d'un État qui n'est pas un État de droit, qui n'est pas légitime, pas encore. Alors ça, c'est intéressant. En matière de travail, donc ça, j'en ai discuté avec Marzouki, ils ont envoyé des émissaires au Brésil pour étudier les expériences alternatives et voir si effectivement il n'y avait pas possibilité de s'inspirer de l'expérience de Porto Alegre. Donc il y a des pistes pour pouvoir développer en termes économiques des micro-projets en Tunisie. Et là actuellement on a 4000 micro-projets qui se mettent en place. En termes de nettoyage de la corruption, ils ont envoyé des émissaires dans les pays qui étaient fortement corrompus, donc cette fois dans les pays de l'Est, pour voir comment, effectivement, pour avoir une expertise sur la façon dont ils avaient pu lutter et se débarrasser de ces systèmes qui mettaient en place la corruption. Et c'est vrai que c'est très difficile, parce que moi je l'ai vu en Égypte. Je vais vous raconter une anecdote. Entre le moment où je suis venue en 2011 et aujourd'hui, j'ai été d'une façon déguisée assignée à résidence en Égypte. Comment ? J'ai été agressée dans la rue par deux civils sur moto qui sont montés carrément sur le trottoir pour me piquer toutes mes affaires, hein, et mon matériel, mes photos, etc., mon téléphone, et qui m'ont laissé sans aucun papier d'identité et sans argent, évidemment, puisqu'ils avaient pris tout ce qui pouvait me servir à me procurer de l'argent, y compris mes cartes. Et donc à ce moment-là, expérience très intéressante pour moi, j'ai eu affaire à l'administration égyptienne. Bah oui. Alors, il a fallu d'abord que je me procure effectivement un laissez-passer, hein. Ça a été très vite auprès du consulat français. Mais ce laissez-passer, il me fallait un tampon pour sortir d'Égypte. Et il me fallait un tampon des autorités égyptiennes. Moi, je pensais que ça allait se faire comme sur des roulettes, ok. Ils veulent se débarrasser de moi, ils vont me tamponner le truc, et je vais pouvoir rentrer. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je me suis pointée au Mougama al-Tahrir, n'est-ce pas, qui est exactement le centre administratif décrit dans Astérix. La maison qui rend fou. Où vous vous baladez d'un niveau à un autre. Mais j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'après avoir fait tous les guichets, je me suis... Et puis, être allée là où tout est informatisé, parce qu'en bas, il y a les guichets, où vous avez des piles de papier, et où les gens, les fonctionnaires vont consulter le papier pour voir si votre dossier n'est pas au fin fond. Mais en haut, troisième, tout est informatisé. Donc là où on a, là où on comprend qu'on est dans deux pays différents, en fonction du traitement qu'on nous fait. Première réflexion. Deuxième réflexion. Quand j'ai pu identifier la personne stratégique qui avait mon dossier, c'est-à-dire le gars qui représentait la Sûreté nationale, évidemment, il m'a dit, mais il y a une double enquête maintenant sur vous. Il y a à la fois la Sûreté nationale, mais aussi les services extérieurs égyptiens. C'est pas qui vous êtes. Je pense qu'en prenant, mon sac, ils pensaient trouver des choses compromettantes. Hein. Et puis, grâce à Dieu, mon téléphone a sauté du sac, donc ils n'avaient pas mes listes de contacts. Et donc, il a fallu que je me pointe toutes les semaines pour savoir s'ils avaient fini leurs enquêtes. Ça a duré trois mois. Alors, quand vous subissez ce traitement d'avilissement total, parce que c'est ça qu'on vous fait subir, ici, vous n'êtes rien. Moi, ce qui me faisait tenir, c'est que je sais qu'au bout, j'ai une issue. Mais quand vous êtes comme eux, vous êtes coincé, vous n'avez pas d'issue, si vous ne vous aplatissez pas, mais c'est pire que l'aplatissement, c'est de l'avilissement. C'est-à-dire que vous tuez ce qu'il y a en vous, ben vous ne mangez pas. Il n'y a rien qui se débloque pour vous, vous ne vivez pas. Et c'est ça le traitement qu'on fait à la majorité des Égyptiens. Donc, quand vous avez affaire à cette administration soviéto-turque, non mais c'est vrai, c'est l'héritage, hein. On a à la fois l'administration soviétique installée sous Nasser et puis on a l'héritage des Ottomans, hein. Donc on a affaire à la fois à ça, hein. C'est terrible, c'est absolument terrible. Donc au bout de trois mois, j'ai eu mon visa de sortie, et je vous assure que le jour où j'ai eu le tampon, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. Parce que pour moi, ce tampon, soudain, c'était une délivrance. Même si jusqu'à présent, à chaque fois, parce qu'on est fiers quand même, vous savez qu'on est fiers les Algériens, là. À chaque fois que j'allais voir Khaled Bey, ah, je lui disais, Khaled Bey, vous m'aimez, c'est pour ça que vous voulez me garder. Hein? Mais bon, intérieurement, j'étais blessée de subir un traitement pareil. Donc, effectivement, les Égyptiens, quand ils subissent ce traitement, et qu'ils ont vu, qu'ils ont connu ce qu'ils ont connu sur la place Tahrir, forcément qu'ils vont être aptés à développer d'autres expériences pour sortir de ça. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc pour répondre à votre question, effectivement, il n'y a pas de travail, mais le travail, ils vont le créer. Leur travail, ils vont le créer.
Est-ce qu'ils vont le créer ?
J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. C'est-à-dire que comme ici en Aveyron, on développe des expériences alternatives. Je suis convaincue qu'une fois un certain nombre d'apprentissages faits et de transmission des savoirs faits, ils arriveront à développer leurs propres expériences. Ça, c'est en cours, ça prend du temps. Comme ça a pris du temps en France. Combien de temps en France ? Les premiers mouvements alternatifs dans les années 70 ? On est en 2013. Ça prend du temps, c'est le temps d'une génération. Et encore, on a la chance maintenant, avec tous les moyens de technologie, un temps accéléré. Donc, on se rend compte qu'en une génération, on connaît finalement beaucoup plus d'expérience que la génération d'avant.
Malheureusement, le temps s'accélère même pour l'autre partie.
C'est réel. Oui, bien sûr.
Il y a des moyens.
Oui, mais bon, la force qu'on a, c'est, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre des gens qui ont tous les moyens ? Parce que c'est vrai qu'on a l'air impuissant. Eh bien, je pense que notre puissance à nous, ce qui nous rend plus forts, c'est cette prise de conscience que même s'ils apparaissent plus forts, en vrai, ils ont peur. Premièrement, la peur, elle a changé de camp. Moi, j'avais vu des Égyptiens tétanisés avant. J'ai vu des Marocains tétanisés qui avaient des yeux dans le dos dès qu'on parlait d'Hassan II. Des Tunisiens qui se faisaient poursuivre à Paris et qui étaient laissés pour morts sur des terrains vagues. J'ai connu tout ça. Des Algériens qui s'exprimaient pas, qui voyaient la sécurité militaire partout, y compris en France. Or, ce que je me suis rendu compte en circulant dans le monde arabe, depuis que ça a bougé d'abord en 88 en Algérie et ensuite dans les autres pays, c'est que la peur, elle a changé de camp, c'est énorme. Deuxièmement, la force des gens, c'est justement cette notion de temps, de se dire, on en est d'abord à la transmission des idées et des savoirs. Bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr que la répression s'applique, mais tant que les gens, et notamment je pense à ce mouvement de Tahrek, c'est pour ça que je suis devenue une de leurs compagnons de route, tant que ces expériences effectivement sont en cours et se développent, je suis convaincue qu'elles seront menées à bout, c'est-à-dire que les gens s'aiment. En Algérie, ce que j'ai constaté par rapport à la question des disparus, puisque j'ai été compagnon de route des familles de disparus en Algérie, c'est que maintenant, les gamins que j'ai connus, qui avaient 3 ans, 4 ans, dont les pères ont disparu, maintenant, ils ont accédé à l'université, ils ont cette conscience d'avoir subi collectivement une injustice, puisqu'ils ne savent toujours pas où sont leurs pères, et qui maintenant, avec toutes les enquêtes qui ont été faites, ils savent comment leurs pères ont été assassinés par qui. Ça, c'est une mémoire collective qui reste et qui fera qu'un jour, en Algérie, on aura exactement le même processus de démocratisation qu'en Argentine, avec le mouvement des folles de la place de Mai. Les familles de disparus en Algérie jusqu'à présent manifestent et demandent des comptes. Ça fait combien de temps qu'elles sont en marche depuis 1987 ? Bien sûr que ça prend du temps, mais il y a un apprentissage qui se fait, et surtout, les faits sont têtus. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, on ne peut pas éliminer les faits, de même qu'on ne peut pas tuer les idées.
S'il vous plaît, je m'intéresse à la question de l'unité arabe, un peu comme, si vous voulez, stratégie laïque, et un peu comme ciment d'un mouvement social qui peut marcher dès aujourd'hui. L'unité arabe. Alors, mais une unité arabe, comment ?
C'est quoi l'unité arabe ?
Eh bien, essayer de d'envisager une sorte de fédération, et dans le mouvement social, le maximum de relations, par exemple, entre la Tunisie, ce qui se passe en Tunisie et en Égypte.
Bien sûr que ça se fait.
Mais avec quand même un point de vue stratégique, peut-être aussi politique, des fois, qui peut être assez fort quand même.
C'est pour ça que je dis le temps est une force, parce que pour mettre en place des stratégies, il faut du temps. Il faut que les gens apprennent à se connaître, échangent leur expérience. Chaque pays, en même temps, a sa particularité propre. Ce qui peut être valable en Tunisie peut très bien ne pas l'être en Égypte et vice-versa. Donc il faut tenir compte à chaque fois des réalités des pays. Mais pour le moment, les gens échangent tahrik, ils sont en contact avec d'autres militants dans le monde arabe. Ils sont pas isolés. Mais je crois en la force de l'exemplarité. À partir du moment où une expérience commence à exister, elle peut être, les gens peuvent s'en inspirer, l'adapter, la reprendre, de même façon que Mark Zuckerberg est allé voir ce qui se passe à Porto Alegre, parce qu'il s'est dit, tiens, ben là, il s'est passé un truc intéressant, on a des conditions sociales à peu près identiques, alors comment ça se passe, sachant que l'humain est universel quand même, quelle que soit sa culture.
Parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est surtout les sunnites qui travaillent dans cette direction.
C'est quoi les sunnites ?
Les frères musulmans, on a l'impression qu'il n'y a qu'eux, un petit peu, qui travaillent dans cette direction. Par ailleurs, il y a aussi quand même une autre question par rapport à l'unité arabe. C'est admettre qu'il y a des Berbères, qu'il y a des Kurdes, qu'il y a des Assyriens, même parce que les chrétiens en Syrie sont plus ou moins avec Assad. C'est ce qui se dit ici, dans les médias. Admettre qu'il y a d'autres peuples, plus que même les Juifs, qu'il y a d'autres peuples. On découvre qu'il y a une question berbère, là, maintenant, ils se battent depuis 50 ans au Mali, on découvre qu'il y a une question Touareg, par exemple. Voilà. Alors, mais dans un sens progressiste qui va dans une direction laïque. Voilà. C'est la question que je voulais vous poser. Quelle est la réalité de ce qui me paraît pour moi une stratégie, si vous voulez?
Alors, là, je vous reprends sur plusieurs points. On découvre qu'il y a une diversité devant le monde arabe. Mais on la découvre comment ? À travers les médias. Il y a toujours eu une diversité. Elle a toujours existé. Les gens dans le monde arabe ont toujours connu cette diversité et ils ont toujours vécu ensemble. Pourquoi on la met en avant soudainement dans le monde des médias ? C'est parce que ça permet de diviser. Ça permet de cliver. C'est ce qu'on a vu s'installer en Syrie, malheureusement. Alors qu'on avait un État en Syrie ou en Irak auparavant, alors qu'on avait un État national, quelle que soit la nature de l'État, je ne suis pas là pour défendre le régime de Assad ou de Saddam, on avait une unité nationale. Or, les temps d'aujourd'hui sont à quoi ? À l'éclatement de l'État national. Pourquoi ? Parce que l'État national, il a des fonctions régaliennes. Il a des fonctions en matière de protection des territoires, l'armée, en matière de santé, en matière d'éducation,
justice.
Et de justice. Si on veut casser l'État national, c'est pour installer d'autres systèmes. Et l'État national, il gêne qui actuellement ? Mais y compris en Europe, y compris en France, hein ? Il gêne les partisans de l'ultralibéralisme. Donc on va mettre en avant tous les clivages qu'on va trouver. Si demain on trouve un papou en Égypte, on va vous mettre en avant le papou. Et puis on va vous mettre en avant toute une histoire de d'oppression du papou en Égypte. Donc ça, on fabrique. On fabrique de la division et on fabrique du clivage là où auparavant les sociétés et l'intelligence des sociétés avaient trouvé leur propre équilibre. Je pratique l'Égypte depuis 30 ans. Il n'y avait pas de problème confessionnel en Égypte. Il y avait des incidents entre des familles, notamment en matière de mariage ou en matière de conversion. Donc on avait des incidents qui étaient des incidents qu'on appellerait ici des faits divers, entre une famille, une fille, admettons, ça s'est produit il n'y a pas très longtemps, qui fugue pour rejoindre son ami musulman ou vice-versa. Et on traduit dans les médias « incident confessionnel ». Moi, quand j'enquête sur ces faits, pour moi, ça reste du fait divers, avec des problèmes de famille qui interdisent aux uns et aux autres de se marier entre eux. Donc, quand on reste à ce niveau-là de la compréhension des choses, on arrive à décrypter ce qui se passe. Mais si vous me plaquez dessus les confessions, on n'y comprend plus rien. Donc, on brouille volontairement la compréhension en disant que c'est trop compliqué à comprendre. Et on met à distance, effectivement, les gens de façon à ce qu'ils acceptent plus facilement les schémas qu'on leur sert à travers les médias lourds et en général qui se terminent par les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Donc on a la fabrication d'un feuilleton avec tous les ingrédients et effectivement, là je dis attention, 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 il y a des demandes. Je pense notamment aux Berbères, que ce soit d'Algérie ou aux Berbères du Mali. Il y a des demandes en termes culturels et d'identité culturelle auxquelles peuvent répondre leurs propres États, de même façon que la France a répondu l'État français aux Occitans ou aux Basques à l'époque où ils devaient demander l'enseignement de leur langue. Moi, j'ai étudié toute l'histoire de l'Occitanie et l'histoire du Pays Basque et l'histoire de la Corse pour comprendre ce qu'était l'identité française. Et à travers ces luttes, je me suis rendu compte qu'elle était multiple, mais que j'avais pas affaire à des ethnies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ethnie basque, il n'y a pas une ethnie occitane, il n'y a pas une ethnie corse, même si leurs langues sont différentes. Or, quand ça se passe ailleurs de la même façon, on va me parler d'ethnie. Vous comprenez?
Oui.
J'ai répondu?
Oui, très bien.
Hein? Voilà. Donc, je dis attention, attention, attention à tout ce qu'on reçoit en matière de fabrication d'histoires revisitées, y compris par rapport aux islamistes. Il y a une diversité dans le spectre des islamistes qui, je le rappelle, sont en gros des partis conservateurs d'inspiration religieuse. Il y a des factions d'entre eux qui sont plus progressistes que d'autres, et qui font alliance avec les progressistes et les laïcs. Quand vous prenez par exemple ceux qui sont sortis des frères musulmans qui s'appellent Al-Wasat, ils ont fait alliance avec les progressistes égyptiens en opposition au président Morsi. Un des cadres du mouvement frères musulmans, Aboul Futouh Aboul Monaim, a fait dissidence, a créé son propre parti, effectivement, et il fait alliance avec les laïcs, même si je considère que lui, quelque part, est laïque. Parce que la laïcité, c'est quoi? C'est la non-instrumentalisation des affaires religieuses par le politique. C'est une séparation. Ce qui est du domaine de l'homme reste à l'homme, ce qui est du domaine de Dieu reste à Dieu. Mais on peut avoir des étapes d'inspiration religieuse. L'Allemagne en est un bon exemple, où effectivement, on a en Allemagne un système où les valeurs intrinsèques du système sont des valeurs protestantes. Et les Allemands ne comprennent pas ce qu'est la laïcité française. Ils ne la comprennent pas. Les Anglais ne comprennent pas c'est quoi la laïcité française. Parce que la laïcité française appartient à l'histoire propre de la France et de son rapport à l'Église. Évidemment. Donc, Ça, parce que j'incite l'astuce, c'est très important. Dans le monde arabe, on ne sait pas ce que c'est que la laïcité, telle que vous, vous la concevez.
Il y a quand même la Turquie.
La Turquie, oui, la Turquie, ou pas de charge avec Atatürk. Hein. Au pas de charge, c'est l'armée. Hein. Avec Atatürk.
Nasser, tout ça, c'était laïque.
Non, Nasser, ben non, puisque la loi fondamentale est restée rattachée à la religion en Égypte. C'est-à-dire que les gens ont l'air de découvrir en Égypte, aujourd'hui, qu'en Égypte, on a des lois inspirées depuis longtemps, et je pense notamment à tout ce qui est code civil, on a des lois d'inspiration religieuse en Égypte depuis très longtemps. On a fondamentalement en termes de lois qui régissent la société. Le code Napoléon, adapté au pays. En vrai, c'est ça. C'est le code Napoléon en Égypte. Mais pour ce qui concerne, par exemple, des affaires de divorce, des affaires civiles, d'héritage, etc., on a, en plus, donc les concepts religieux qui sont mis s'appliquer et qui font, par exemple, qu'en Égypte, quand deux personnes divorcent, automatiquement, le logement est attribué à la femme. Automatiquement. Ça, c'est du droit musulman. Donc, on a des choses qui sont d'inspiration religieuse, du droit musulman, et on a à côté de ça le code Napoléon. On a tout ça en Égypte. Hein. Voilà. Donc, laïcité, je repose à chaque fois la question. Laquelle ? Pour aller un petit peu plus au fond par rapport à, vous avez parlé des alaouites et des chrétiens, donc des minorités chrétiennes qui existent dans le monde arabe. Là, en ce moment, j'ai écrit un papier sur Internet, vous le trouverez à mon nom, La malédiction syrienne, où il y a 2 ans, j'ai annoncé qu'on allait avoir en Syrie la fabrication d'une guerre civile. Logique. Pourquoi ? Parce qu'en Syrie, il est très facile de cliver, alors qu'on avait un État national, il est très facile de cliver cet équilibre qui est devenu fragile à la faveur de la crise qui s'est développée. Et en Syrie, on a à la fois une population qui s'est rebellée contre le régime dictatorial de Assad, mais pas seulement. On a une guerre régionale qui est venue se greffer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts énormes dans la région, et notamment toute la recomposition du Moyen-Orient et du Maghreb pour le contrôle des ressources et le déploiement des intérêts militaires. Donc, et ça, effectivement, toute cette superposition, elle fait que n'importe qui capte les infos à la télé, au bout d'un moment, alignez-les, écoutez les infos, ou lisez les journaux et alignez les titres, on n'y comprend plus rien, quoi. C'est fou. Ça tourne, ça devient le vertige, quand on n'y comprend plus rien. Or, si on retourne à des fondamentaux et à ce qu'on a connu ailleurs, les guerres régionales, ça existe. Les guerres civiles, il faut retourner à la définition réelle pour se rendre compte que ce qui est à l'œuvre en Syrie, ce n'est pas du tout une guerre civile. C'est un système. Donc, les partisans du régime d'Assad, pour faire court, qui font la guerre à leur population, mais que dans le même temps, on a des intérêts régionaux qui font la guerre à la Syrie dans son ensemble. C'était aussi bien Assad qu'à sa population réunie, en vrai. Et que la dure réalité, c'est celle-là. Donc c'est des situations où on entretient volontairement la confusion pour arriver à certains résultats. À cause d'intérêts effectivement stratégiques à défendre. Je pense notamment pour le cas de la Syrie à la présence d'énormes nappes de gaz dans son sous-sol. Oui.
Ouais. Je vais reprendre un peu ce que disait Durand. Oui. Le côté nationalisme et groupe d'intérêts communs, en gros, d'une partie du Proche-Orient, du Maghreb. On a, nous, en France, à ceux qui ont un certain âge, vu, entendu, vécu avec, dans les années 50-60, l'arrivée du socialisme dans les pays arabes. Et alors, c'était mieux que Nasser, mieux que Bourguiba, mieux que Kadhafi, mieux que Boumediene. Tous étaient des champions d'une nouvelle vie, d'une nouvelle espérance, qui qui était porteur, et on a plein de gens de gauche, pour aller vite, qui dans les pays européens, ou au moins en France, puisque peut-être pas ailleurs, hein, au moins en France, disaient, là, c'est intéressant. Là, on va avoir un panarabicam, ce qu'on voudra, mais on va, enfin, ils vont nous amener une société juste, digne, laïque, à leur façon s'ils veulent, mais ça va marcher. Et puis, bon, je pense en effet que les intérêts économiques d'autres puissances ont vite fait de mettre le holà à ces personnes qui n'étaient pas des tendres, ni des doux, ni des socialistes non plus. Mais Hussein, même Assad, se référait comme ça. Et donc, on a encore ça en tête. Alors, il faut peut-être l'arrêter tout de suite et dire non, c'est terminé. Et c'était peut-être même un petit mensonge au départ, je ne sais pas.
Oui, alors, il y a eu l'existence d'une tentative d'unification, justement à cette époque, sous l'égide de Nasser et de Boumediene, de l'Union des États arabes, ça existait, ils avaient leur drapeau et tout, mais tout ça c'était que formel. Effectivement, ça a duré quoi, 3 ans, hein, ça a été des conférences, des réunions au sommet, etc., et puis après plus rien. Ça n'a pas correspondu à une réalité d'unité finalement des peuples. Pourquoi? Parce que dans le même temps, on avait un fort nationalisme qui se développait, hein. C'était des jeunes nations, aussi bien l'Égypte de Nasser que l'Algérie de Boumediene étaient des jeunes nations qui avaient besoin de constituer leur État national. Et qu'on sait très bien que pour constituer l'État national, il faut aussi déployer une idéologie nationaliste, hein, contre tous les ennemis potentiels, y compris les frères arabes.
Tout ce qu'on vient de dire là, en fait, c'est manipulé par le journalisme.
Ça serait trop rapide de dire ça, parce que je suis journaliste et que je connais beaucoup de confrères qui, comme moi, sont honnêtes et pratiquent.
Il y a combien d'honnêtes dans les responsables de journalisme?
Le problème, c'est à qui appartiennent les médias, en fait. C'est pas ceux qui travaillent.
Mais ça, c'est clair, c'est aux flics.
Moi, j'ai eu des confrères qui sont venus me voir sur l'Algérie, par exemple, à l'époque où il y avait la guerre de 90, c'est déclenché en 92, qui venaient me voir, qui disaient, mais on nous empêche de dire la vérité. Donc, je leur disais, faites jouer votre clause de conscience. Donc, ils me répondaient, si on l'a fait jouer, on n'a plus de boulot. C'est aussi clair que ça, c'est très simple. Donc, au bout d'un moment, vous faites des choix, soit vous continuez à travailler d'une façon indépendante, et ça a été mon choix. Pourquoi être dépendant, justement, de ceux qui possèdent l'argent, c'est aussi simple que ça. Soit, effectivement, vous essayez de faire un jeu d'équilibriste, et l'info qui passe, elle est souvent tronquée. Au mieux, elle est tronquée, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une petite partie qui passe. Au pire, elle est mensongère. Et on l'a vu dernièrement sur l'Algérie, avec le documentaire signé Séverine Labatte et Malika Aoudia sur l'assassinat des frères de Tibéri. Mensonger de bout en bout. Et ça, c'est terrible. Terrible. Parce que depuis 17 ans, une enquête est menée sur l'assassinat des moines de Tibérine, à la fois par la justice française, enquête initiée par le père Armand Veilleux, qui est un des pères cistériens de la confrérie auquel appartenaient les moines, hein, c'était des moines cisterciens, donc Armand Veilleux qui est à Courmont en Égypte, en Belgique, et qui lui a déposé plainte au nom des familles. Et puis parallèlement, on a eu des enquêtes de journalistes intègres. Je pense notamment à un très beau livre d'un confrère, Jean-Baptiste Rivoire, qui lui a écrit un livre qui s'appelle « France-Algérie, crimes et mensonges d'État », où on a déjà en filigrane l'affaire des moines de Tibérine, et il a écrit un second livre qui est sorti il y a quelques années, directement sur l'assassinat des moines de Tibérine, où là, effectivement, on a... à la faveur de 5 ans d'enquête, hein, qu'il a mené avec un collègue algérien, la version la plus proche de la vérité. Hein, c'est très difficile, effectivement, d'avancer, d'approcher de la vérité quand on est dans des affaires où toutes les preuves ont été effacées, et qui mettent en plus, en, qui mettent en lumière l'activité particulièrement sombre et crapuleuse de services appartenant à deux États, qui sont l'État français et l'État algérien. À un moment, une collusion de services dans le cadre de ce qui se déroulait en Algérie. Donc là, on a donc un travail à la fois journalistique, la justice qui est encore en cours, avec dans un premier temps un dossier Van Rubeck qui avait bloqué le dossier, qui avait refusé donc d'interviewer les témoins, mais des témoins clés, notamment des personnes appartenant au service secret algérien qui avaient déserté, donc ensuite, et qui étaient prêts à témoigner de l'implication de certaines personnes ou de certains services dans cette affaire, donc refus de les entendre. Et il se trouve que ce juge, donc, qui s'est porté candidat à des élections, a quitté sa fonction de juge, que le dossier est passé au juge Trévidic, que Trévidic a réouvert les enquêtes, c'est un juge particulièrement intègre, et qu'on a avancé, puisque maintenant on a tous les éléments écrits, il a entendu tous les témoins, et qu'il reste à finaliser un certain nombre de choses pour arriver vraiment à la vérité. Mais là, on a des raisons d'État qui s'éclairent.
C'est Van Rubeck.
C'est Bruguière.
Bruguière, voilà.
Excuse-moi, ouais, j'ai fourché. C'est Bruguière, tout à fait.
C'est quand même
le fameux Bruguière. Quand Van Bruguière, il est bon. C'est Bruguière, oui, je rectifie.
Oui.
Et donc là, effectivement, dernièrement, il y a eu un documentaire soi-disant honnête qui a été pratiqué en Algérie, qui a été tourné en Algérie. Sauf que, quand on connaît tout ça, ils ont été les seuls autorisés à tourner à proximité du monastère des moines de Tibérine. On leur a vraiment déroulé un tapis rouge. Deux, ils ont été accompagnés, donc les personnes qui ont filmé là-bas, et notamment Malik Oudia, ils ont été accompagnés par des personnes des services algériens, donc qui leur, soi-disant, déroulaient un tapis rouge. Donc ce n'est pas des conditions de tournage honnêtes, ça. C'est pas en étant encadré par ceux qui sont impliqués dans cette affaire qu'on va arriver à dévoiler la vérité. Ça, c'est évident. Ça, c'est des conditions. Moi, quand on me propose de m'accompagner, je refuse. Tant pis pour le documentaire, je le ferai pas. Je le ferai quand les conditions seront réunies. Tant pis pour l'article, je le ferai pas. Je refuse de travailler en tant que journaliste dans des conditions pareilles. Or là, on a une double implication, à la fois des journalistes donc, qui pour moi ne sont pas honnêtes, et puis à la fois une chaîne de télévision française qui a choisi quand même de diffuser ce documentaire qui était réalisé dans des conditions malhonnêtes.
Ce système, il est généralisé très rapidement. Là, vous citez un exemple, mais oui. Si on regarde bien, il y a des tas d'exemples sûrement très semblables. Et donc, je considère, moi, personnellement, que toutes les informations risquent d'être fausses et j'y crois pas trop. Mm. Et c'est comme ça que j'arrive un peu à la vérité.
Oui, ça, c'est une sage précaution. Si, en parallèle, vous allez chercher l'information et si vous êtes outillé aussi pour détecter l'information correcte, c'est-à-dire si vous arrivez à faire ce travail de croisement des sources, en repérant sur un internet, par exemple, les sites plus sérieux que d'autres, etc. Mais pour ça, il faut avoir un bagage intellectuel et un background. Or, c'est pas le lot de tout le monde d'avoir ce temps-là, parce que maintenant, ça demande du temps d'avoir les vraies infos. Et c'est vrai que c'est plus facile d'allumer la radio. On a le flux en 10 minutes, on croit qu'on a tout. Moi aussi, je le fais. Donc ça me donne une idée du temps, en fait. Est-ce qu'il pleut aujourd'hui ou pas ?
Moi, quand j'ai voté des informations comme ça, je sais qu'elles sont fausses. Oui. Donc, je traduis un peu en disant, tiens, ils insistent bien sur ça parce que c'est faux.
Oui, tout à fait. Parce que ce que vous avez repéré, c'est qu'il y a toujours une répétition de la même chose. C'est pour ça que je dis, mettez bout à bout ce qu'on vous raconte et essayez d'en trouver la logique.
Et là, tout ça, deux interventions, oui. Là maintenant.
Ouais.
Une ici, Hamid, Jean-Pierre aussi, oui. Derrière.
On parle souvent de l'influence du Qatar dans les révolutions arabes. Est-elle vraiment réelle ou c'est le fantasme? Le Qatar intervient au PSG, intervient partout.
C'est bon.
Elle est réelle vraiment l'intervention du Qatar?
Si alors, elle est réelle, quel est son intérêt dans tout ça?
Alors, on parlait de l'influence d'Al Jazeera, qui est la chaîne du Qatar. D'accord. Al Jazeera a fortement relayé, dès le départ, la révolte tunisienne. Et égyptienne ensuite. Pourquoi? Parce que le choix stratégique du Qatar, c'est quoi? C'est que le Qatar a choisi de se doter d'une chaîne de télévision internationale pour compenser sa faiblesse, en fait. La réalité, c'est que cette petite surface, hein, qui ressemble à un petit pois, comptait peanuts au Moyen-Orient. Sauf que c'est des gens qui tirent leur argent du pétrole et de l'exploitation qu'ils en font, et qui avaient envie, à un moment donné, au moment où ils ont choisi de se développer et de devenir l'équivalent de ce qu'était le Liban avant la guerre de 75, c'est-à-dire une plateforme monétaire. Ils ont choisi de devenir visibles. Donc, ils ont eu des conseillers, très bons communicants, qui leur ont conseillé de faire une chaîne de télévision internationale, et ça a donné Al Jazeera. Alors, c'est vrai qu'au début d'Al Jazeera, on était très enthousiaste parce qu'elle est arrivée en même temps que la guerre du Golfe.
Oui.
Et que ça a été un contrepoids de CNN. Donc on était, nous, hyper enthousiastes, surtout les arabisants, puisque c'était en arabe, et que nos confrères, ils y pigeaient rien. Hein, donc ça, c'était un plus pour nous, d'autant plus enthousiastes. Mais on s'est rendu compte très vite, et notamment à la faveur des révoltes du monde arabe, qu'il y avait une orientation qui était donnée sur Al Jazeera en faveur, effectivement, des groupes conservateurs, et notamment des frères musulmans. Donc, je suis passée d'une chaîne où il y avait au début énormément d'informations sur tout le monde arabe, puisque pour vous donner une façon dont fonctionne Al Jazeera, c'est ceux qui tiennent Al Jazeera, les administrateurs des Algériens sont qataris, mais toute l'info est fabriquée par des journalistes du monde entier, et majoritairement issus du monde arabe, qui sont venus travailler là parce qu'ils avaient soudain un espace libre. Donc au début, c'est vrai qu'Al Jazeera, les journalistes faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Et puis petit à petit, il y a eu des orientations qui ont été données, d'où un mouvement notamment de journalistes contestataires à Al Jazeera, parce qu'ils se sont rendus compte que depuis les révoltes populaires, Al Jazeera favorisait des groupes politiques plus que d'autres. Donc là, on a une orientation directe et politique du Qatar à ce moment-là, qui a décidé de favoriser les mouvements islamistes dans le monde arabe. Ça correspond à quoi? Ben, ça correspond à ses intérêts. C'est-à-dire que les Qataris sont c'est des banquiers. Ils ont des logiques de banquiers. Ils n'ont pas d'idéologie. Ils investissent là où ça pourra leur rapporter à moyen ou à long terme. Puisqu'ils savent pertinemment que leur richesse est amenée à se terminer. Le pétrole, c'est devenu quelque chose d'éphémère, c'est 50 ans. Mais après, donc, ils anticipent et ils investissent partout, effectivement, pour pouvoir perdurer après. C'est ça? J'ai répondu ou pas?
Mmh. Oui, d'ailleurs, à ce propos, au Mali, les rebelles, entre guillemets, a été soutenu aussi par les ONG qataris qui ont amené pas mal de provisions sur place. Et ma question, c'était pas ça, c'était sur les journalistes, et qui s'adressait peut-être davantage à Kara.
Oui,
j'aurais voulu savoir quelles étaient les conditions pour exercer le métier de journaliste en Égypte. Est-ce que les journaux sont soumis à la censure? Et est-ce que la révolution a changé en bien ou en mal? Je sais pas.
هل مش مثلا مش مش الحرية لها تعريف كثيرة. حاولت ترجمة أول بأول. الحرية نسبية. إذا معنى حرية كبيرة.
Pour lui, la liberté, elle a tout un éventail.
فكل تاريخ مصر أثبت إنه ما فيش علاقة تفاهم بين المسؤولين وبين الصحفيين.
Alors, dans toute l'histoire de l'Égypte, il n'y a pas eu de relation entre ceux qui étaient les responsables et les journalistes.
علشان المسؤولين دائما في غلط.
Parce que في غلط في
أعمالهم.
Parce que les responsables politiques étaient toujours dans l'erreur dans leur façon de procéder.
ففي خوف مباشر من الصحفيين.
Donc et ils avaient toujours l'impression que les journalistes étaient leurs ennemis.
وبعض الصحفيين عاملين غلط في جريدهم.
Et que les journalistes de ce fait faisaient des erreurs dans les informations.
فأي صحفي مصري ليه علاقة بالمسؤولين الحكوميين يبقى هو على غلط. على غلط. أي صحفي مصري له علاقة بالمسؤولين.
Alors tout journaliste qui a une relation avec des responsables de l'État est tout le temps induit en erreur dans les informations qu'il donne. Il a instrumentalisé.
وسقطت الصحافة في مصر لسه ما وصلتش بالفعل للصحفيين.
Oui, et que la culture de l'information en définitive n'est pas encore intégrée par les journalistes.
فأنا شايف إنه حصيلة الشعب من الصحافة صفر. يعني إزاي يعني هم الصحافة والإعلام ما بيفهمش منهم حاجة الشعب المصري.
Alors,
ليه بقى؟
Il se rend compte que les journalistes là-bas ne comprennent pas grand-chose à ce que fait le peuple égyptien au final.
صفر.
Zéro.
ليه بقى؟ لأنه في جرايد تابعة للنظام وجرايد تابعة للمعارضة.
Il y a des journaux donc qui suivent le système, le pouvoir en place, et puis il y a des journaux qui suivent l'opposition. Et que ces journaux-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous expliquent qu'il y a comme il y a un clivage dans la société, il y a un clivage dans la presse, et que ces journaux-là finalement passent leur temps à se faire la guerre entre eux. Et que les journaux qui essayent de donner de l'information sur l'opposition sont aussi marginalisés.
Ou les tabacs nazis.
Et que ceux qui suivent le système en place.
Il est au foulard.
Deviennent des traîtres. C'est-à-dire qu'on a une guerre de la presse entre eux finalement, un petit peu comme ça s'est passé auparavant en Algérie, mais on n'a pas d'infos. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de commentaires sur ce que font les uns ou les autres, mais l'information on l'a pas au final.
C'est pareil en France.
Et en France, c'est pareil, hein, maintenant. Hein. Ouais. C'est pas pareil. Mais là, c'est violent. On a une régression en France. Mais là, ça atteint des degrés de violence. C'est-à-dire que quand vous épinglez le nom de personnalités ou de journalistes, ils deviennent des cibles. Ils deviennent des ennemis à abattre. C'est-à-dire que c'est des degrés. C'est très, très violent, en fait. Donc c'est pas évident de pour un journaliste de travailler dans des conditions pareilles. Oui, la deuxième question.
C'était est-ce qu'il y a de la censure et puis est-ce que.
Alain Thomas, bah oui, il vous a répondu d'une façon indirecte. Can Raïs يفهم هل انتم حريين في المعلومات وتارسلتوا الى دي نو بان pendant ces conditions
المعلومات هي اللي بتضايق عليه المعلومه
المعلومات ils n'ont pas accès à l'information
فعشان كده يلجأ الصحفي للتحليل.
Voilà, donc le journaliste là-bas est considéré par les gens du pouvoir comme un porte-micro.
والتحليل يطلع صح او غلط.
Voilà, et puis donc il commet tout le temps des erreurs.
Il n'y a pas de journaux indépendants en dehors des deux camps ennemis, quoi.
Il y a de la presse privée, mais pas d'indépendants.
Et alors,
un
syndicat de journalistes
qui est Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la presse privée qui a ses intérêts, mais il n'y a pas d'indépendance. D'où le fondamental de créer un journaliste indépendant. Donc ils essayent. Oui, donc ils essayent d'avoir une réflexion sur l'indépendance. Effectivement, d'abord du journaliste en tant que personne, parce que Karam Minallah qui est là, jusqu'à très récemment, après 15 ans de travail, n'était toujours pas reconnu comme journaliste par les autorités égyptiennes. Donc il fallait qu'il développe 1000 superfluses s'il voulait arriver à travailler. Ça, c'est... Donc on les maintient dans la précarité. 15 ans d'exercice de la profession et vous n'êtes pas reconnu. Alors ça veut dire quoi? Je vous explique comment fonctionne la reconnaissance des journalistes en Égypte. On a le syndicat qui tient le monopole, un peu comme ça se passait dans les pays soviétisés. Hein, le syndicat, quel monopole? Le monopole des journalistes. Donc, si vous acceptez comme syndiqué, si vous travaillez dans un journal, vous déposez une candidature au syndicat. Donc, il faut d'abord que votre journal cotise au syndicat. Ensuite, vous déposez votre candidature pour intégrer ce syndicat. Ça vous permet quoi? Ça vous permet d'obtenir la carte de journaliste. Donc, on n'a pas une commission indépendante comme en France, le droit de la carte de presse. D'obtenir la carte de journaliste reconnu par les autorités, donc c'est simple. Si vous ne l'avez pas, vous n'entrez pas, suivez un procès par exemple, un truc tout bête. Je veux suivre un procès pour un journal, ben non, vous n'avez pas le droit d'entrer si vous n'avez pas, s'il y a un contrôle, la carte officielle vous ne l'avez pas, vous ne rentrez pas, interdit d'entrer. Deux, ça vous permet de doubler votre salaire. Alors là, on entre dans le système de corruption. Vous touchez votre petit salaire dans votre journal, donc vous touchez votre petit salaire, hein, en moyenne pour un journaliste entre 500 et 800 livres, ce qui n'est pas énorme compte tenu du coût de la vie là-bas, hein, et donc là vous le doublez. Le syndicat vous verse une indemnité censée vous aider un petit peu, de l'équivalent de votre salaire à peu près. Et puis ça vous offre les portes du crédit pour avoir une voiture et un logement. Donc vous devenez fonctionnaire en fait. Amusant, oisif. Oisif, hein, le mot oisif il vient d'où? Oisif, les fonctionnaires. Donc vous devenez fonctionnaire finalement de l'État. Oui, le mot. J'en dis non, nous on l'a traduit en oisif ici. Là ça devient un fonctionnaire gâté. Mais c'est un journaliste qui devient fonctionnaire, et ça c'est grave. D'où l'importance, et c'est pour ça que je suis de près cette expérience de création de syndicats des journalistes indépendants pour faire en sorte qu'au cœur de la profession, il y ait une volonté de la part
Et on va les laisser faire?
Ben non. Voilà. C'est un combat, tout est combat.
Parce qu'il faut que nous puissions faire des
objectifs. Voilà. Et donc tant que vous êtes pas, quand vous êtes journaliste, si vous voulez être reconnu, il faut rentrer au syndicat des journalistes officiels. Et il y a énormément, tous les ans, il y a plus de 400 journalistes qui se bousculent au portillon du syndicat officiel en espérant que leur dossier de candidature sera retenu. Ça, c'est terrible. C'est un vrai combat.
Et quels sont les organes de presse, enfin, quel est votre moyen de vous faire connaître, d'amener d'autres aspirants journalistes à venir soutenir le nouveau syndicat indépendant?
Est-ce que... وكيف تظهروا اللي تخلي الصحفيين الجديد الشاب يلحقوكم يجيوا عندكم؟
احنا كل برنامج كبير في مصر بيبقى فيه صحفيين ليهم معترف بحقوقهم وصحفيين حقوقهم مهضومه.
Alors dans chaque journal en Égypte, il y a des journalistes fonctionnaires et puis il y a le petit journaliste, hein, qui lui est toujours autant opprimé. Oui. D'ailleurs le petit pigiste en fait, hein, parce qu'ils ont faupé de pigistes, de gars qui aspirent à devenir fonctionnaires, donc ils sont toujours là, mais qui au bout de 10 ans sont toujours dans la même condition.
Donc c'est les
petits journalistes qui eux vont risquer leur peau à Tahrir par exemple.
Oui.
Pendant que les autres sont au chaud et qui sont morts aussi, pour certains, de jeunes journalistes qui sont morts dans l'exercice de leur métier
sans qu'on leur reconnaisse ce titre de journaliste, pendant que les fonctionnaires sont dans leur bureau. Donc ils ont commencé à attirer l'attention de ces jeunes journalistes qui, pour leur survie, courent partout et essayent de travailler. Oui, et donc on a commencé par ces petits journalistes qui, finalement, au moindre incident qui se produit, ça pouvait être par exemple sur un journaliste arrêté. Il y a beaucoup de petits journalistes qui ont été arrêtés parce qu'on les prenait pour des manifestants. Et à ce moment-là, les rédactions disaient « Ah ben celui-là, on ne le connaît pas
hein. ». Oui, oui. Oui.
Donc c'est cela qu'on a réussi à qu'on a essayé de réunir pour leur expliquer comment ils pouvaient en tant qu'indépendants se protéger, défendre leurs droits et défendre leur liberté aussi d'informer.
Il faut que quelqu'un les soutienne financièrement parce que c'est très joli.
Ah oui. زي على شان هي تقول تتحركوا كذا وتتصلوا بالنكاود مع الصحفيين ولكن كيف النكابة تتحرك هل عندها أموال؟
إحنا من الفكرة نفسها مش محتاجة أموال.
Alors pour le moment ils fonctionnent sans argent en vrai, puisqu'ils se réunissent dans un café. Ils n'ont pas de locaux. Et pour le moment, ils font rapidement des cours de formation. D'abord pour expliquer aux jeunes journalistes, d'abord pour leur faire comprendre qu'ils ont des droits.
L'important,
c'est le béaba du syndicalisme.
Le canon fait صالح الصحفي. لك موجود من مارس الصحافة. Oui.
Voilà. Et ils essayent de faire appliquer le droit égyptien. On a le code Napoléon, c'est parfait en Égypte, on a tout. C'est-à-dire que si la loi égyptienne était suivie, il n'y aurait pas de journalistes dans des situations précaires. Donc, ils font leur travail d'information, hein, de faire comprendre aux plus jeunes qu'ils ont des droits, en vertu de la loi, ils ont des droits. Et que dans certains cas, ils peuvent mener des actions en justice. C'est là qu'ils interviennent.
وصلنا النقطة دي فتشنا في القانون لقينا النقطة دي ظهرناها ورجعنا بعض حقوق من الناس وبدأت الناس تيجي على بعد ما رجعنا حقوق.
Donc à partir de ce moment-là, effectivement, où ils se sont mobilisés sur des cas, les jeunes journalistes ont commencé à venir rejoindre ce syndicat qui se mobilisait sur des cas précis et qui avait gagné.
وهنا استشعر الناس مدى الاستقلالية يعني إزاي تقدر مستقل تقدر تدخل على المصدر تأخذ منه معلومة بدون ما هو شريك هو ما اشتراش.
Et deuxièmement, alors le gros problème en Égypte, c'est aller à la source de l'information. Parce que pour transmettre de l'information, il faut la trouver. Or, quand toutes les portes sont fermées, effectivement, ils n'ont pas accès à l'information, même l'information officielle. Si vous n'êtes pas le journaliste, entre guillemets, accrédité par le ministère un tel ou un tel, vous n'avez pas l'information. Donc, si vous n'êtes pas finalement associé au ministre et à ceux qui le servent, vous n'avez pas d'infos. Donc, finalement, et même l'associé n'a pas d'infos puisqu'il ne devient qu'un communicant.
حتى الوزير كان يجهل القانون واحنا خدنا منه انتزعنا منه الموافقه وهو جاهل القانون خدنا الموافقه منه خلاص.
Donc ils ont fait en sorte effectivement d'essayer d'ouvrir un petit peu l'accès ne serait-ce qu'à l'information officielle réelle, ce qui est très difficile en Égypte. Et ce qui leur a fait effectivement un petit peu accélérer ça, c'est de voir que moi j'avais accès à tout. Parce qu'évidemment, je venais de l'étranger et c'est éminemment gratifiant pour un ministre ou pour n'importe quel haut fonctionnaire de recevoir un journaliste qui vient de l'étranger, n'est-ce pas? Donc j'avais accès à tout et je leur disais, mais regardez, quand ils veulent donner l'info, ils la donnent. Donc c'est que quelque part, ils ne vous considèrent pas comme journaliste. Donc faites valoir ce droit minimum à l'information.
وانا اشتغلت في الاثنين يعني انا عملت في النقابه الصحفيين المستقله وكذلك نقابه لاثبات اني انا يعني قادر على التواصل معهم لازم اكون جوه لازم اكون في النقابه حارب
alors ce qu'ils ont choisi aussi c'est que lui il explique qu'il a aussi intégré il y a quelques mois le syndicat officiel pourquoi parce que il y a des luttes d'influence qui se mènent au sein du syndicat officiel pour essayer de le transformer.
واشتغلت في أكبر برنامج حكومي برضو علشان أعرف.
Il a travaillé aussi dans le principal, un des principaux journaux officiels d'Égypte, qui est le Khabar. Il y a deux grands journaux en Égypte. Il y a Al Ahram que tout le monde connaît parce qu'il est traduit en français. On a une version française et anglaise. Et Al Akhbar qui lui est moins connu parce qu'il est uniquement en arabe, mais qui est le deuxième grand journal officiel. Hein, officiel, ça veut dire de l'État.
Bidon foulous. Tout le bidon foulous.
Et que tout ça, il l'a fait sans être payé à l'époque. Hein.
Il n'y a pas des projets justement pour de création de d'autres médias ou d'autres journaux ou de faire des agences de journalistes pour parce que là, est-ce qu'ils ont non mais on fait ils deviennent journalistes indépendants mais ils sont obligés de est-ce qu'ils ont la capacité de dire ce qu'ils veulent dans les journaux?
Alors,
qui appartiennent ou à l'opposition ou...
Je vais t'expliquer comment ça se passe. Quand tu as une habitude de lire la presse égyptienne, tu t'aperçois d'une chose, c'est que les journalistes intègres qui sont en place utilisent un langage codé souvent pour faire passer des informations. Hein. Ils ne sont pas poursuivables, mais en même temps, l'information peut passer. Hein. Là, il faut avoir une habitude de lecture. Et parce qu'il n'y a pas d'espace d'expression libre. Si vous essayez de créer une structure libre en Égypte, tout de suite, on va vous accuser d'injures et de diffamation. C'est ce qui se passe pour ceux qui ont ouvert des sites internet, hein, puisque maintenant on peut créer un journal sur internet. Ceux qui ont essayé cette expérience ont été poursuivis pour injures, etc. et se retrouvent, comme tu le disais plus justement, en prison ou avec des procédures sur le dos. C'est vrai, c'est très difficile. Il y a des journalistes, il y a un journal de la presse libre qui est très important en Égypte, qui s'appelle Al-Masri Al-Youm, que je considère comme le journal le plus libre du moment. Hein? Pas seulement en ton, mais aussi en termes d'information. Merci. Mais avec ses limites, les dossiers sensibles. Je vous donne un exemple. Quand je suis venue, je vous ai parlé d'un détenu que j'avais connu sur la place Tahrir, qui s'appelait Wael Aboulil. Wael. Et qui, lui, avait été arrêté parce qu'il était un des leaders des comités populaires. On avait monté une cabale contre lui et accusé de complot en collusion avec les officiers libres contre l'État. Il risquait la peine de mort. À l'époque, donc, j'ai eu le réflexe qu'il fallait. J'ai fait adopter par une association internationale de défense des droits humains dans le monde arabe, qui s'appelle Al-Karama for Human Rights, qui a réagi au quart de tour, qui a pris en charge son dossier et qui a envoyé une requête auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU pour le mettre sous parapluie, sous protection. Hein? Donc il est resté longtemps en prison. J'ai fait la tournée des rédactions en Égypte avec son dossier, en expliquant comme j'avais toutes les pièces du dossier et toutes les pièces qui prouvaient que c'était un montage de dossier. Hein? Il n'y a aucun journaliste, y compris Al-Youm, qui a pu écrire une ligne là-dessus. Ils ont commencé à écrire à partir du moment où il a été libéré. Et il a été libéré pourquoi ? Parce qu'il devenait un cas très dérangeant à cause de la pression sur son nom pour les autorités égyptiennes. Mais pas grâce au travail de la presse égyptienne, pas du tout, malheureusement. Et il y a des milliers de cas comme lui. Il y a des milliers de cas.
Et le fait de savoir décoder, justement, enfin d'avoir un langage codé, est-ce que la population égyptienne a cette habitude de décoder ?
La population égyptienne comprend... mais malheureusement, une catégorie de la population, puisque j'ai expliqué tout à l'heure qu'une grosse catégorie, effectivement, était illettrée, même si les Égyptiens sont férus de presse, ils sont comme un petit peu chacun tout le monde. Ils aiment bien les faits divers, ils aiment bien tout ça, mais la politique, on s'en méfie aussi.
Bon, je pense que leur avance, s'il n'y a pas de questions ou de demandes d'informations supplémentaires capitales, on va peut-être pouvoir arrêter officiellement la soirée, mais ça ne nous empêche pas de continuer à bâton rompu avec Rabat ou avec Karine.
Tout à fait, merci.
Voilà.
Merci. Merci.